Radio & Co.
Le podcast qui fait la différence.
Le podcast qui fait la différence.
Le podcast qui fait la différence. 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 Différence.
Radio & Co.
Bonjour à tous et à toutes, ici Christian, je suis ravi de vous retrouver pour ce nouvel épisode de Radio & Co, le podcast qui fait la différence, avec aujourd'hui une bonne équipe. Je suis accompagné par Clément. Bonjour Clément.
Bonjour Christian.
Par Zora. Bonjour Zora.
Bonjour Christian.
Et par Olivier. Bonjour Olivier.
Bonjour Christian.
Et en technique, voilà, nous avons Sébastien et Lorian. Alors dans cet épisode, nous recevons Martine Siadous. Bonjour à vous.
Bonjour à toute l'équipe.
Vous êtes intervenante donc en médiation animale et vous animez un atelier, une activité médiation animale deux fois par mois à Café & Co, c'est bien cela ?
C'est bien cela.
Et merci d'être venu avec nous pour nous parler un peu de votre activité et de ce que vous proposez aux adhérents de notre association. Mais avant qu'on aille vraiment dans le vif du sujet, comme je me demande à tous nos invités, pouvez-vous vous présenter de la manière qui vous plaira en quelques mots ?
D'accord, je vais essayer d'être brève. Donc, je suis Martine Siadous, intervenante en médiation animale. Je suis assistante sociale, donc je n'exerce plus aujourd'hui. Et depuis 2021, je suis intervenante en médiation animale. J'ai fait une formation à l'IFZ, Institut français de zoothérapie à Vélane, pour pouvoir pratiquer la médiation animale. Et à partir, je dirais vraiment de mars 2022, j'ai commencé à intervenir dans différents établissements avec mes animaux.
Merci Martine. Je vais donner la parole à Clément.
Comment vous êtes devenue médiation animaux ?
Alors, est-ce que vous voulez savoir quelle formation ou comment j'ai choisi d'utiliser cette...
Les deux.
Alors... Du coup, je pense que comme beaucoup de personnes, j'ai grandi avec des animaux, chiens, chats, etc. Bon, moi, déjà, j'ai grandi à la campagne, donc j'ai toujours apprécié les animaux, déjà. J'ai toujours été quand même tournée, entre guillemets, vers la relation d'aide. J'ai toujours envie d'être en interaction avec les personnes, d'être. J'ai choisi d'exercer le métier d'assistante sociale après avoir fait divers métiers. Et j'ai pu constater à travers des personnes que j'ai accompagnées qui pouvaient fréquenter des structures, par exemple, où il y avait des chevaux, tous les bienfaits que ça pouvait leur apporter. Et en échangeant avec des collègues de travail qui avaient suivi un parcours pour se former à la médiation animale, j'ai décidé donc de me former pour pouvoir intervenir avec mes animaux pour apporter un certain bien-être aux personnes, les stimuler. Et donc, c'est comme cela que j'ai choisi l'Institut français de zoothérapie à Vélane, puisqu'en fait, c'est une formation spécifique. On ne peut pas comme ça décider du jour au lendemain qu'on va travailler avec ces animaux. Il faut se former parce que ça ne s'invente pas, quoi. Même si on aime les animaux, même si on est bienveillant, même si on a des animaux qui sont sympathiques, on ne peut pas le faire comme ça sans être formé. Voilà. Et donc voilà, c'est comme ça que j'en suis arrivée à exercer ce métier.
C'est une formation conséquente ?
Alors moi personnellement, c'est une formation qui a duré 15 jours, avec une certification à la base, un mémoire à rendre en fin de formation. Puisqu'en fait, aujourd'hui, il n'y a pas vraiment de formation diplômante, il n'y a pas de diplôme d'intervenant en médiation animale. C'est encore assez, comment dire, un métier où il n'y a pas vraiment un diplôme reconnu. Voilà, il y a un projet de loi qui est en cours, mais à l'heure actuelle, ce n'est pas le cas.
Moi, j'aimerais poser la question. Donc, vous avez un peu dit en quoi ça consistait, la médiation animale. Donc,
oui.
C'est une forme de thérapie. Et en même temps, d'où vous est venue cette passion ?
Alors, déjà, c'est une forme. Alors, je réponds déjà à Zora à votre première question. C'est considéré comme une thérapie non médicamenteuse. Au même titre, bon, déjà, c'est reconnu comme thérapie non médicamenteuse par la Haute Autorité de Santé. Donc, c'est vraiment reconnu comme ayant des bienfaits. Au même titre que l'art-thérapie ou la musicothérapie. Et c'est vrai qu'en tant qu'assistante sociale, j'ai pu parfois être confrontée à des accompagnements qui pouvaient être complexes. J'ai accompagné des personnes de différents âges, j'ai accompagné des jeunes de 13 à 20 ans. Et parfois, je me disais, si dans mon bureau, j'avais un animal, ça permettrait peut-être de libérer la parole, d'apaiser, de faire tomber les tensions pour les personnes qui étaient dans des situations complexes et qui avaient du mal à verbaliser ce qu'ils vivaient et leur situation. Donc, c'est vrai que pour moi, le fait d'allier l'animal dans mes interventions d'assistante sociale, ça aurait été vraiment un plus. Bon, on ne me l'a pas permis. C'est pour ça que j'ai décidé de le faire hors de mon métier d'assistante sociale.
Et est-ce que ça fonctionne avec tout type d'animaux?
Alors, je dirais que la médiation animale, en fait, c'est une pratique professionnelle, donc, où on a des partenaires animaux, ça peut être des chevaux, ça peut être des ânes, ça peut être des oiseaux, ça peut être des lapins, ça peut être des poules. Il y a des personnes qui utilisent différents animaux. Mais ce qui est important à mon sens, c'est déjà, alors tous les gens ne sont pas issus du médico-social. Bon, moi, pour ma part, c'est mon parcours, voilà. Mais je pense que c'est quand même important, en tout cas, d'avoir un minimum d'informations pour bien accompagner les publics qu'on est censé accompagner. Et ensuite, ce qui est important, c'est d'avoir des animaux bien éduqués. Parce qu'on peut avoir des animaux sympas, mais par exemple, un chien, qui est quand même l'animal le plus, je dirais, sociable et à qui on peut demander beaucoup de choses, par exemple, il ne va pas être forcément familiarisé avec les fauteuils roulants, avec les déambulateurs, avec les bruits, ou si on intervient auprès de publics plus difficiles, qui ont des problèmes psychiatriques, qui crient. Donc, il faut avoir des animaux non seulement bien éduqués, qui n'ont pas de troubles du comportement, et aussi qui ont un super suivi vétérinaire, parce que moi, tous mes animaux, ils montrent patte blanche, c'est le cas de le dire. Ils ont un suivi vétérinaire, ils ont tous les vaccins, ils sont traités contre les parasites. Enfin voilà, c'est important d'avoir des animaux en bonne santé, bien éduqués, parce que la médiation animale, en fait, c'est une pratique professionnelle où on intervient avec des animaux, on est formé à ça et on a des animaux qui sont aussi formés à tout ça, quoi. Voilà. Parce que ça leur demande aussi une grande capacité d'adaptation, en particulier le chien. Bon, moi, j'interviens avec chien et cochon d'Inde. Mais le chien, par exemple, il peut avoir peur de certains bruits, donc il faut qu'il se familiarise avec plein de choses. Les sols qui sont particuliers, les ascenseurs, les accessoires, etc. Donc, on ne peut pas faire ça parce qu'on aime les animaux et qu'on a décidé que ça pouvait être sympa de faire du bien aux gens. Si, on peut le faire avec des chiens, être chien visiteur, et j'ai rien contre les chiens visiteurs, mais ce n'est pas la même chose. Voilà, c'est très différent. Je ne sais pas, Zora, si ça répond
à... Si, mais justement, je réfléchissais par rapport à la médiation, par rapport à l'handicap. Est-ce que vous arrivez à faire une médiation avec tout type d'handicap ou certains handicaps, ça fonctionne? Vous arrivez à faire une bonne médiation avec, je ne sais pas moi, bon, ça marche avec l'épilepsie, je sais. Après, bon, il y a les non-voyants, etc. Mais est-ce qu'il y a d'autres handicaps où ça fonctionne plus ou moins bien?
Alors moi, je crois que ça peut fonctionner pour beaucoup de personnes, quelle que soit la problématique, parce que en fait, bon, déjà il va y avoir une première rencontre entre la personne qui souhaite ou des personnes qui ont pensé à la médiation animale pour essayer d'améliorer l'état de la personne et son bien-être. Donc déjà, il va y avoir une première rencontre qui va permettre de voir, si la personne elle a pas d'appréhension, par exemple par rapport au chien, si elle est plutôt tournée vers les rongeurs ou le chien, ou si elle aime tous les animaux en général. Donc déjà, ça c'est une première chose. Mais on peut travailler en fait avec tout type de handicap, même avec des gens lambda, je dirais. On peut travailler avec des gens qui ont fait des burn-out, on peut travailler avec des gens qui ont un handicap visuel, avec des gens qui ont un handicap moteur, avec des gens qui ont des troubles psychiatriques. En fait, ce qu'on va chercher, c'est à stimuler, apaiser, faire tomber le stress, valoriser les gens à travers la réalisation de différents exercices, par exemple avec le chien. On va travailler sur l'estime de soi. On peut travailler avec des jeunes délinquants sur la responsabilité. On peut travailler avec tout type de public. On peut travailler avec des enfants aussi pour leur apprendre le savoir-être avec les animaux, comment se comporter. Voilà, pour éviter les maltraitances, le respect des consignes, on peut stimuler la mémoire, on peut travailler avec les personnes âgées, y compris Alzheimer. Enfin, je pense qu'on peut travailler avec tout type de public, il n'y a pas de problème.
Oui. Les chiens d'assistance, par exemple, on en parle beaucoup.
Voilà, il y a les chiens d'assistance, mais je veux dire, là, voilà, mais c'est surtout que l'animal, bon, notamment, je prends le chien parce que c'est quand même l'animal clé, je dirais, bon, les chevaux, c'est autre chose, les ânes, c'est autre chose, c'est pas la même, c'est pas les mêmes interactions et c'est pas la même organisation non plus, puisque ça demande un matériel différent. Mais le chien, je veux dire, qu'on soit grand, beau, intelligent, qu'on ait un handicap moteur, qu'on n'en est pas, le chien, l'animal n'est pas dans le jugement. Et en plus, ce qui est important, c'est que l'animal, il a un système de communication qui est aussi différent, c'est-à-dire il n'a pas de parole, mais il a son propre langage à lui, et on peut communiquer avec l'animal de plein de manières. Donc, voilà, il n'y a pas de limite, en fait, dans sa communication et ses interactions.
Je vais finir par là, cette question. Oui. Ça m'a posé la question parce que moi, les chats, par exemple,
oui,
c'est très indépendant. Est-ce oui. que vous arrivez à faire une médiation avec les chats?
Alors moi, personnellement, je n'ai plus de chat actuellement. J'aimerais beaucoup avoir un Maine Coon parce que je trouve que c'est un animal magnifique et c'est un chat impressionnant. Ça me plairait de l'amener en médiation, mais bon, voilà, pour l'instant, je n'en ai pas, mais ça serait mon projet. On peut travailler avec des chats, mais déjà pas n'importe quel chat, parce qu'il y a, bon, déjà, le chat, c'est particulier parce que c'est plus indépendant. Mais il y a des races de chats, entre guillemets, qui sont un peu plus prédisposées au contact humain. Le Maine Coon en fait partie. Voilà. Mais après, c'est pas les mêmes interactions. Le chat est un peu plus imprévisible que le chien. Parce que ce qu'il faut savoir aussi, c'est que quand on travaille avec un chien, moi, j'ai appris à interpréter le langage du chien, c'est-à-dire s'il est stressé, s'il n'a pas envie d'être en interaction, alors moi, je sais que mes chiens ne mordront pas parce qu'ils ont été éduqués, mais en tout cas, ça peut permettre de prévenir des situations où l'animal va être en stress et en tout cas, il ne va pas pouvoir répondre aux stimuli parce que ben, c'est trop pour lui, quoi. Donc, c'est important de décoder aussi le langage du chien, de son animal, quoi.
J'ai vu récemment, en fait, aujourd'hui d'ailleurs, qu'il y avait des chiens
qui oui.
s'occupaient aussi de diabète.
Oui, oui. Alors, non, c'est pas nouveau. Le chien est un animal formidable parce que c'est vrai qu'il a, il a plein de capacités extraordinaires. Et c'est vrai qu'il y a des chiens qui sont en fait formés pour détecter les maladies. Et effectivement, notamment en Espagne, il y a des chiens qui sont, enfin, je pense, ça vient en tout cas de là. Il y a des chiens qui ont été formés pour permettre aux gens qui sont très diabétiques, au lieu de faire des dextro, en fait, le chien a la capacité de détecter le taux de glycémie, s'il est trop haut ou trop bas. Et il se manifeste. Il y a même des gens qui peuvent faire des comas, en fait. Et le chien se manifeste pour pas que ça arrive, en fait. Donc, ils sont dressés pour ça. Voilà. Comme ils peuvent être dressés pour détecter de la drogue ou diverses maladies, même les épilepsies aussi, ils peuvent accompagner. Oui.
Moi, je m'en inquiétais pour mon épilepsie.
Voilà. Oui, ça existe.
Voilà.
Oui.
Et c'est, il existe des centres de formation.
Oui, il y a des. En fait, oui, il y a des lieux où les. Alors, il y a un des chiens qui peut le faire. Après, je ne les connais pas tous parce que ce n'est pas ma spécialité. Mais effectivement, ce sont des chiens qui sont formés pour détecter les crises d'épilepsie, le diabète ou autre. Quoi.
D'accord. Moi, j'avoue que vous nous parliez un peu des animaux avec lesquels vous travaillez. Donc, je voulais savoir un peu, déjà que vous nous disiez que vous me présentiez l'équipe et comment vous les avez choisis. Vous avez dit que c'est des animaux qui sont éduqués. Donc, est-ce que c'est vous qui les éduquez? Est-ce qu'ils sortent d'une école, d'un élevage? Un peu comment ça se passe?
Alors, aujourd'hui, je travaille essentiellement avec mes cochons d'Inde. Donc, j'ai 3 cochons d'Inde, 4, hein, puisqu'il y en a une qui est entre guillemets en sociabilisation. Donc, il y a 4 cochons d'Inde. Il y a Chippy, Lola, Bianca. Voilà. Et il va y avoir bientôt Gypsy. Ce sont que des femelles. J'ai choisi le cochon d'Inde parce que lors de ma formation, c'est un animal que je connaissais vaguement. Mais lors de ma formation en médiation animale, j'ai découvert toutes les aptitudes que ces petits animaux pouvaient avoir et tous les bienfaits que ça pouvait apporter aux personnes dans différents domaines. Et franchement, c'est assez étonnant parce que c'est un curieux petit animal. Déjà, au niveau sensoriel, ben, ils ont des pelages très différents. Ils ont un langage très riche puisqu'ils émettent 22 bruits différents, des petits sifflements, etc. Bon, ils adorent manger plein de légumes, donc on peut travailler autour des légumes, de la couleur des légumes, on peut travailler plein de choses, on peut même leur faire faire des petits parcours. Donc ça, ce sont les cochons d'Inde. Et après, je travaille avec Teddy, Cavalier King Charles, qui, oui, viennent d'un élevage, d'un petit élevage familial. Et donc, j'ai choisi un Cavalier King Charles parce qu'effectivement, c'est une race de chien qui est prédisposée à ce métier de médiateur. le chien médiateur parce qu'ils aiment beaucoup l'humain, donc ils ont une facilité à rentrer en relation et une tolérance très importante. Et l'avantage de Teddy, c'est que comme il a un petit gabarit, on peut le poser par exemple sur les personnes qui sont en fauteuil ou très dépendantes. On peut le poser sur, on peut le poser sur eux, etc. Voilà. Et puis vraiment, c'est un chien caméléon, je dis, parce qu'il s'adapte à toutes les situations.
Et c'est vous qui l'avez éduqué ensuite ?
Alors, j'ai travaillé avec un éducateur comportementaliste pour lui faire découvrir les établissements, puisque la première fois qu'il est rentré dans un établissement, il avait 6 mois. Puisqu'il peut y avoir des sols, par exemple, qui brillent, il y a les ascenseurs, il y a les gens qui se déplacent en déambulateur ou en fauteuil ou qui crient, pour qu'il découvre tout ça. Et donc, l'éducateur comportementaliste analyse un petit peu son comportement. Il y a des phases de réassurance pour qu'après, ça devienne normal pour lui, quoi. Voilà.
Pour moi, le chien, il a un regard un peu triste.
Oui, peut-être.
Et donc, par rapport à ça, moi, je le vois mal en tant que...
Que chien médiateur ?
Ouais.
Alors, c'est un chien qui a une expression comme ça parce qu'ils ont des yeux un petit peu plus ronds. Par exemple, je travaillais auparavant avec ma chienne Nikita qui est croisée labrador, mais qui a 12 ans aujourd'hui, donc je l'amène très peu en intervention. Et je peux vous dire que Teddy, franchement, en médiation, il n'a pas du tout le regard triste. Il est très... Voilà. Ça donne peut-être cette impression parce qu'ils ont des yeux très ronds. Mais en fait, déjà, c'est un chien qui est très actif et qui, en fait, se calque vraiment à toutes les situations.
D'accord, aussi, c'est comme un humain.
Voilà, c'est comme un humain. On peut avoir un regard plus ou moins expressif. Alors peut-être qu'il a un regard moins expressif qu'un berger australien ou qu'un autre chien parce qu'ils ont les yeux plus en amande. Mais c'est vrai qu'il est très expressif aussi.
Est-ce que vous avez des réseaux sociaux ?
Alors, j'ai juste une page web parce que c'est vrai que j'avoue que je ne suis pas très bonne à ce niveau-là.
Ah, c'est dommage.
Oui, voilà. Après, je dirais que finalement, j'interviens dans pas mal d'établissements parce que c'est le bouche à oreille qui fait son chemin.
Vous intervenez sur tout type de public ou vous êtes spécialisée dans le handicap vous-même ?
Alors, j'interviens. Alors, le handicap et la santé sont toujours des thématiques qui m'ont intéressée. Depuis toujours, depuis très très longtemps. Et en fait, là, j'interviens dans des EHPAD, sur des unités Alzheimer ou des unités de grands dépendants. J'interviens sur des foyers d'accueil médicalisés. J'interviens auprès d'enfants TDAH. Je peux intervenir auprès de CLAE parce que j'ai aussi été formée à la prévention des morsures du chien auprès des enfants parce qu'il y a beaucoup de morsures, donc c'est un plus aussi. Et d'ailleurs, c'est valable pour tout le monde parce que souvent, on approche les chiens d'une manière qui n'est pas toujours adéquate.
C'est bien vrai.
J'interviens sur des foyers de vie. J'interviens sur un DITEP. J'interviens sur des établissements pénitentiaires pour mineurs. Voilà, c'est assez varié. J'interviens aussi, par exemple, à la clinique de Saint-Aurens sur les gens qui sont en état végétatif. Voilà, je rentre un petit peu partout.
Alors, si je comprends bien, vous n'êtes pas nombreux ni sur le plan dans l'agglomération, ni sur le plan national.
Alors, sur le plan national, je pense qu'on est assez nombreux parce qu'il y a un petit peu, une mode. Donc, parfois, il y a des personnes, c'est quand même un petit peu plus médiatisé. On peut voir des émissions à la télé. On peut voir Prégo, un cheval qui rentre en soins intensifs. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de le voir. En Normandie, notamment, un cheval qui rentre dans les soins intensifs.
C'est un cancer, c'est ça ?
Oui, c'est ça. Mais je pense que c'est à la fois une pratique qui se développe, mais à la fois, on peut trouver un petit peu tout et n'importe quoi. C'est-à-dire que des fois, il y a des personnes qui peuvent se dire « Bon, mais mon animal, il est sympa, j'ai envie de faire ça. » Mais encore une fois, pour moi, personnellement, en tout cas, c'est ma conviction. Il me semble très difficile d'intervenir auprès de différents publics si on n'a pas un minimum de connaissances sur les différentes pathologies, parce qu'on ne va pas intervenir pareil auprès d'un enfant autiste, d'une personne trisomique, d'une personne qui a Alzheimer, ou d'une personne qui a des troubles psychiatriques, ou d'une personne qui est juste déprimée, qui a besoin de se faire du bien à travers le contact avec les animaux. Donc je pense que c'est important quand même, mais il y en a de plus en plus. Oui. Après, sur la région toulousaine, je pense qu'on n'est pas très nombreux. Mais c'est en train de se développer. Mais c'est beaucoup plus développé dans le centre de la France, en région parisienne, etc.
Est-ce que vous comprenez la lenteur de la formation ? Pourquoi il y a cette lenteur-là pour pouvoir acquérir ces connaissances ?
Alors moi, je pense qu'il y a, c'est surtout, il y a une lenteur de la mise en place parce que je pense qu'il y a encore des établissements qui sont un peu réticents pour faire rentrer les animaux dans leurs murs, quoi. Parce qu'il y a des appréhensions sur les maladies au niveau de l'hygiène, etc. Je pense que déjà, ça, c'est un peu un frein. Et puis, je pense qu'il y a des institutions aussi qui sont mal renseignées et qui pensent qu'on vient juste faire un numéro de cirque avec nos animaux. Alors qu'en réalité, à travers des exercices qu'on va faire, on va travailler la motricité, on va travailler la mémoire, on va travailler les différents stimuli. Mais c'est pas toujours très clair pour tout le monde. Je pense que c'est une pratique qui est pas forcément où les gens n'ont pas vraiment connaissance de tout ce que ça peut apporter. Ça reste pour eux, je pense, pour certains, une animation plutôt qu'une pratique professionnelle qui peut améliorer le bien-être des personnes qui en ressentent le besoin. Voilà.
Il y a encore du travail, enfin, c'est pas à votre niveau, mais du travail au niveau de la communication.
Oui, je pense, oui.
On voit, après ce que vous nous expliquez, que la médiation animale, déjà, c'est quelque chose qui ne s'improvise pas.
Enfin, pour moi, ça s'improvise pas, non.
Je crois qu'il y a des psychologues, d'ailleurs, aussi, qui utilisent cette technique, il me semble.
Oui, il y a des psychologues, il y a des ergothérapeutes, effectivement, il y a des kinés qui peuvent l'utiliser aussi, effectivement.
Et ce que je voulais savoir, on voit qu'il y a des objectifs variés, donc je voulais savoir un peu quels sont les objectifs justement de l'atelier que vous proposez à Café & Co et comment ça se passe. Est-ce que vous travaillez avec un groupe régulier? Est-ce que c'est des gens qui viennent spontanément et qu'est-ce que vous leur proposez?
Alors là, donc, on a vu ça avec Céline pour essayer de mettre en place des petits groupes. Déjà, il faut qu'il y ait évidemment un intérêt pour découvrir ce qu'est la médiation animale. Et je dirais que ce que je travaille, c'est le bien-être, l'estime de soi et en fait pour les gens qui sont stressés, l'apaisement. Et après, on va venir stimuler aussi la motricité fine, la motricité en général. On monte des petits parcours moteurs, on découvre aussi l'univers des différents animaux, donc c'est des connaissances. Donc on va venir travailler pas mal de choses,
hein. C'est plus pour le plaisir ou à vocation thérapeutique
Alors moi, je pense qu'il y a du plaisir, mais il y a une vocation thérapeutique aussi. L'affirmation de soi, l'apaisement, et puis tout ce qui peut, comment dire, faire du bien, en tout cas.
Et enfin, Café & Co, on a un public qui est quand même très varié, notamment au niveau des profils de handicap. Vous arrivez à mixer tout le monde dans vos ateliers ou comment ça se passe?
J'arrive à mixer parce que, bon, déjà, le handicap, c'est un sujet qui m'intéresse, comme je vous le disais, depuis très longtemps. En tant qu'assistante sociale, j'ai travaillé plus de 10 ans dans le champ du handicap, donc j'ai, entre guillemets, accompagné des personnes avec des handicaps différents. Donc, je m'adapte. En fait, je cherche à valoriser les gens, à pas les mettre en échec et à ce qu'ils se sentent bien dans ce que je propose. Et en fait, c'est aussi un dialogue et j'entends qu'ils me proposent aussi ce qu'ils aimeraient faire parce que ça peut être très intéressant.
Vous avez des bons retours, justement
Oui, franchement, les personnes qui ont participé ont bien aimé et ont envie d'y revenir, donc c'est que ça leur plaît.
Est-ce que vous travaillez dans les hôpitaux?
Alors, je suis dans l'hôpital, non, pas encore, mais j'interviens à la clinique de Saint-Aurens.
D'accord.
Voilà.
Les personnes arrivent chez qui vous allez?
Oui.
Ce service n'est pas gratuit.
Ah non.
Non, c'est payant.
Alors j'ai un statut de micro-entreprise, voilà. D'accord. Oui, non, et ça ne peut pas être gratuit, j'aimerais tellement.
Oui.
Mais...
Il faut bien
vivre
aussi.
Oui, c'est ça.
Aïe. Donc,
oui.
Comme il n'est pas remboursé à la sécurité.
Non, hélas.
Énorme.
Ça coûte combien?
Alors en fait, sur des séances de groupe en établissement, je suis à 90€ de l'heure. Et sur, je peux prendre jusqu'à 6 personnes. Ah, et en fait, sur une séance individuelle, je suis à 50€ de l'heure. Ça inclut en fait la présence de mes animaux. Je produis aussi des écrits pour les établissements qui me le demandent. J'amène tout le matériel. Voilà. C'est ça.
Est-ce que la médiation animale peut être une première sensibilisation aussi pour des personnes qui envisagent d'avoir un animal? Et quel conseil vous auriez envie de donner à des jeunes ou à des moins jeunes parmi nos auditeurs qui se disent que ça pourrait être sympa d'avoir un animal chez soi, mais qui n'ont pas forcément conscience des bienfaits que cela peut leur apporter, mais aussi des contraintes?
Je dirais que quand on prend un animal, notamment un chien, on s'engage minimum pour 10 ans, c'est le minimum, quoi. Et que effectivement, ça demande du temps parce que c'est un animal qui est très dépendant finalement. Il faut le sortir, il faut le nourrir effectivement, il faut avoir un suivi vétérinaire. Donc c'est un engagement. Mais c'est tellement un plus aussi quand on peut le faire, qu'on a l'espace et que c'est possible, qu'on peut aussi assurer financièrement, puisque ça a un coût. Ça amène tellement de choses. C'est à la fois un confident, une présence. Ça amène de l'apaisement parce que rien que le fait de caresser un animal, ça fait baisser le rythme cardiaque et ça favorise ce qu'on appelle l'hormone l'ocytocine. C'est une hormone de bien-être. Donc voilà. Donc c'est positif.
Est-ce que c'est quand même un sujet que vous abordez souvent ici, notamment quand vous venez avec Café & Co? Et est-ce que vous avez vu des personnes évoluer, je ne sais pas, qui avaient des craintes au départ, qui se sont senties plus en confiance avec vos animaux?
Oui, j'ai vu des personnes qui pouvaient avoir certaines appréhensions par rapport aux chiens, peu importe le gabarit, et qui ont pu gagner en confiance, donc ça c'est très bien. Et puis dans mes séances, quand je rencontre des groupes ou des personnes, j'explique aussi comment se comporter avec un chien, parce qu'en fait, il y a une certaine approche à avoir. Et je pense que ça intéresse les gens parce qu'ils sont interpellés, parce qu'on ne leur a pas forcément appris qu'il fallait se comporter comme ça pour aborder un chien, peu importe son gabarit.
Alors Martine, je me permets de poser une question.
Bien sûr.
C'est pas très... Enfin, si je pose la question sur le chat, justement.
Oui.
Vous parlez de la crainte.
Oui.
Cette question n'a pas été posée pour rien.
Oui.
Comment... vous feriez pour éviter cette crainte-là? Comme vous avez parlé d'imprévisible, c'est exactement ce que je ressens.
Oui, par rapport au
chat. Exactement. Mmh. Mmh. Donc, comment arriver à ne plus craindre cet animal-là?
Le chat ou le
oui,
chien?
Le chat.
Oui. Mais je pense que si vous avez des amis qui peuvent vous permettre d'être en contact avec un chat, il faut y aller progressivement. Voilà, il ne faut pas se forcer. Et puis, c'est vrai que le chat... Encore une fois, c'est très sympathique, mais ça peut être imprévisible. Ça peut vous le caresser, d'un coup, il vous met un coup de patte. Ça, pour moi, c'est un animal, c'est beaucoup plus délicat de la manière médiation, par exemple.
Ouais. Peut-être qu'il soit imprévisible.
Oui, le chat, pour moi, est plus imprévisible.
Bonjour, Martine.
Bonjour, Thierry.
C'est vrai qu'on se connaît depuis un
oui,
petit moment.
Oui, on se croise depuis quelques mois, effectivement.
Moi, j'aurais une question.
Oui.
Y a-t-il une sensibilisation pour les personnes qui sont atteintes d'une maladie telle que cardiaque, comme moi-même je le suis, ou c'est-à-dire au niveau du stress, au niveau de la... du stress, oui.
Est-ce que du coup, Thierry, vous voulez dire, est-ce que ça peut amener quelque chose quand on est stressé?
Exactement.
Pour moi, la présence des animaux, selon les appétences qu'on a, si on est plus attiré par, puisque moi, c'est ce que j'ai comme animaux, un chien et des rongeurs, mais selon l'attirance qu'on a, mais déjà, comme j'expliquais tout à l'heure, le fait de caresser un animal, quel qu'il soit, que ce soit votre chat, un cochon d'Inde ou un chien, ça fait baisser le rythme cardiaque. Et c'est un effet apaisant, sauf si vous êtes phobique et que vous avez peur des chiens, par exemple, ou d'autres animaux. Mais déjà, le fait d'être en contact avec un animal, ça apaise, ça fait tomber le stress. Et on a toujours des choses à partager. Et puis pour moi, l'animal, peu importe que vous aimiez ou pas les animaux, peu importe l'animal, quand vous rentrez dans un lieu avec un animal, forcément ça génère des réactions. Forcément ça génère un contact. Forcément ça crée du lien. Donc oui, pour moi, l'animal, c'est un vecteur positif.
D'accord. Et d'un autre côté, ça c'est peut-être tout autre, vous avez eu... Déjà, Martine, sensibilisation ou quelque chose à avoir avec un cheval ou un âne ou...
Alors, moi-même, je montais à cheval il y a quelques années. Et d'ailleurs, le lieu où je montais, c'était une ferme équestre qui était, entre guillemets, qui accueillait des personnes en situation de handicap. Et c'était eux essentiellement qui s'en occupaient. Et j'ai pu voir d'ailleurs tous les bienfaits que ça leur apportait, parce qu'il y avait des personnes qui avaient peur des chevaux, qui n'osaient pas les toucher. Progressivement, en fait, ils prenaient soin du cheval. Et après, ils montaient ou pas, ils étaient cavaliers ou pas. Donc déjà, j'ai observé beaucoup de choses. Ça, c'était avant que je vienne à ce centre social. Je me suis dit, waouh, c'est génial, quoi. Et donc oui, je pense que tout animal, en fait, moi, si j'avais vraiment les moyens, parce que comme je disais, l'entretien des animaux, la nourriture, les frais vétérinaires, l'intendance, tout le matériel qu'on est obligé d'avoir, c'est un certain coût. Mais si j'avais les moyens, j'aurais un Maine Coon et j'aurais peut-être des ânes aussi. Donc, c'est pas dans l'immédiat, mais pourquoi pas, quoi. Donc oui, on peut travailler avec tout type d'animal. Il y en a qui travaillent même avec des rats. Bon, moi, c'est pas ma spécialité. Il y en a qui travaillent avec des poules. Je trouve que c'est particulier. Il y en a qui travaillent avec des oiseaux. Voilà, mais tout animal. Dès l'instant où on a, de toute façon, une appétence pour le lien avec le monde animal, quoi, ça fonctionne, quoi. Ça fonctionne.
Est-ce que le chef s'éduque ? Est-ce que c'est le cas pour les cochons d'Inde et tous les autres animaux que vous citez également ?
Alors, c'est le cas. Le cochon d'Inde, en fait, c'est surtout on va chercher à le sociabiliser parce qu'à la base, le cochon d'Inde, c'est un petit animal peureux. Il n'aime pas qu'on l'attrape, il n'aime pas trop qu'on le touche puisque dans la nature, c'est une proie. Et donc, du coup, oui, on va le manipuler pas mal tant qu'il est petit pour l'habituer à l'humain. C'est pareil.
Et vous qui êtes assistant social, je ne sais pas si vous êtes sorti de cette, de ce milieu.
Oui.
Vous n'avez pas pensé ou vous avez pensé, je ne sais pas, à travailler dans le monde éducatif parce que je pense que ça intéresserait des éducateurs, non ?
Alors, comme je vous le disais, Zora, j'aurais aimé, dans ma fonction d'assistante sociale, pouvoir intégrer la médiation animale puisque parfois j'ai été confrontée à des situations où il y avait des jeunes ou moins jeunes qui vivaient des situations très complexes et difficiles et où j'étais un petit peu démunie en fait et je pense que l'animal aurait apaisé mais on m'a pas permis de le faire donc c'est un petit peu un mélange de mon métier d'assistante sociale et je suis toujours dans la relation d'aide mais en étant directement sur le terrain, voilà.
Voilà. Parce que je connais quand même des
endroits. Et d'ailleurs, je sais pas si vous en avez entendu parler, mais par exemple, il y a un magistrat donc dans le Lot qui a formé, enfin qui a travaillé sur un projet pour qu'il y ait un chien qui soit formé pour assister les enfants par exemple qui ont vécu des situations de violence. Le chien, il est présent pendant les auditions, pendant qu'ils sont auditionnés, pour rassurer l'enfant et pour libérer la parole. Donc, je pense que ça peut fonctionner sur plein de choses. Moi, je travaille, par exemple, alors pour citer une anecdote, mais je travaille avec une grand-mère dont j'ai été sollicitée. C'est une dame maintenant qui a 89 ans. Ça fait à peu près 2 ans que je travaille avec elle. Donc, elle était très déprimée parce qu'elle avait perdu son mari. Et en fait, voilà, elle n'avait pas de pathologie particulière, mais très déprimée, quoi, en fait. Et donc, on m'a demandé d'intervenir chez elle. Et aujourd'hui, cette dame, elle a 89 ans. Je lui fais faire des parcours moteurs avec mon chien. Enfin, je lui fais faire des parcours d'agility. Donc, c'est beau de voir ça, quoi. Parce qu'elle, en fait, elle attend vraiment ça. Et de voir cette dame de 89 ans qui arrive à faire tous ces parcours d'agility. Où j'ai pu voir des gens prostrés sur des unités protégées, des unités Alzheimer, qui étaient vraiment prostrés, ils bougeaient pas. Et le fait de voir l'animal, eh bien, en fait, ça les anime. Et du coup, ils se déplacent, ils parlent. Ou en tout cas, ils émettent des bruits. Enfin, donc, c'est un côté magique. D'ailleurs, ma plus belle récompense, c'est de voir les étoiles dans les yeux des gens, parce que je vois souvent des étoiles dans les yeux des gens, grâce à mes animaux.
Dans le contexte médical,
oui.
Martine,
oui.
Quel a été votre unique, le summum de vos rencontres sur votre parcours ?
Alors, je crois que... Comme je disais Thierry, chaque fois que je vois des étoiles dans les yeux des gens que j'accompagne, c'est ma plus belle récompense. J'ai eu la chance de les voir plusieurs fois, voilà, sans prétention aucune. Mais je dirais que la situation, une des situations en tout cas qui pour moi a été très valorisante par rapport à mes animaux, à mes interventions, c'est un jeune homme qui est très très autiste, qui est en établissement. Qui en fait ne sortait pas de sa chambre, déjà refusait de se vêtir, ne sortait pas de sa chambre. Et bien, petit à petit, on réussit maintenant à le faire sortir de sa chambre et à faire des balades avec Teddy. Ce qui est énorme, ça peut paraître tout à fait anodin, mais ça paraissait impossible il y a quelques mois. Et ça, je trouve que c'est vraiment super, quoi. Et le pire, c'est que Teddy, il peut être parfois coquin à l'extérieur, il peut un petit peu tirer en laisse, etc. Et que quand il avait ce jeune homme, il marchait à son pied comme si ben, c'était son chien, quoi.
Et de plus, comme s'il était au travail, quoi.
Exact.
Il est au travail. Totalement concentré.
Il est au travail parce que ce qu'il faut savoir, c'est que Teddy, en fait, quand je l'amène en médiation... Il a un collier spécifique parce qu'il sait que quand on part, il va aller au travail. C'est pas le même que quand il est chez moi qui fait des balades lambda parce que c'est mon chien de compagnie, entre guillemets, mais c'est aussi mon partenaire de travail, mon collègue. Voilà.
D'ailleurs, il est très calme là.
Oui, voilà. Et donc, il sait que quand on met ce collier, il part au travail.
Il dort.
Voilà.
Martine, je vais rajouter peut-être une petite question, une dernière question.
Oui.
Si c'était à refaire ou si c'était à faire,
oui.
Est-ce que le fait d'animer une ferme thérapeutique, par exemple, c'est quelque chose qui te plairait ?
Ah, mais évidemment. C'est vraiment un projet qui me tiendrait beaucoup à cœur. Après, ça demande d'autres moyens, ça demande des investissements. Mais franchement, oui, une ferme pédagogique, pour moi, c'est le son monde parce que on peut travailler mais plein de choses avec des publics différents et ça permettra d'avoir un certain nombre d'animaux de tout type de gabarit. Et oui, ça serait vraiment un super projet.
Mais Martine, en tout cas, vraiment merci d'être venue nous parler d'un métier passionnant et qui vous passionne.
Oui.
Et on voit qu'il peut se réaliser dans des cadres très variés.
C'est ça.
Et ça nous a permis également d'éclairer un peu les auditeurs et les auditrices adhérents ou futurs adhérents de Café & Co qui souhaiteraient participer à ce que vous proposez ici. Alors pour terminer, justement, vous qui vous fréquentez ce lieu, Café & Co, depuis quelques mois, voire années, on peut dire maintenant, qu'est-ce que vous retenez de votre passage dans notre café ?
Alors, ce que je retiens, c'est que dès qu'on rentre dans ce lieu, et c'est vraiment ce que je dis, c'est vraiment profondément sincère, on ressent beaucoup de bienveillance, on se sent vraiment accueilli, peu importe qui on est ou qu'est-ce qu'on fait, enfin, peu importe la fonction ou la non-fonction, on se sent comme chez soi, en fait, et on vient comme on est, sans masque, sans phare. On vient en étant ce qu'on est avec sa propre personnalité, ses problématiques ou pas. Et on sent que c'est un lieu vraiment très riche de rencontres. Enfin, moi, j'ai rencontré déjà pas mal de personnes et j'en apprends tous les jours un peu plus. Enfin, chaque fois que je viens, c'est toujours très enrichissant et c'est toujours avec plaisir que je viens. Voilà.
Merci.
Merci.
Merci à vous.
Merci à vous. Merci Martine. Merci Tébille aussi.